Oui, fortifie-nous dans notre homme intérieur. Seigneur Jésus, oui, nous sommes ici afin que toi, tu puisses obtenir ta gloire dans l'Église. Seigneur Jésus-Christ, ce soir aussi, ouvre-nous tes paroles, ouvre-nous ton cœur, afin que nous te suivions et que tu y prennes plaisir, que nous exprimions ta gloire, que nous entrions dans l'unité de la foi, que nous parvenions jusqu'à l'unité de la foi. Amen. Paul, dans le chapitre 1, a déjà prié pour les Éphésiens. Après qu'il ait entendu parler de leur foi, qu'ils connaissent Christ, ils reconnaissent l'héritage de Christ dans les saints. Et dans le chapitre 2, il a encore une fois présenté toute cette œuvre, ce qu'a fait le Seigneur. Il a présenté qui nous a rendus vivants avec Christ, que nous sommes son œuvre, qu'il a amené son corps en existence. Et il continue de parler au chapitre 3 de cette merveilleuse intendance de Dieu. Il fait vraiment un dessin. Il fait quelque chose de beau. Quelque chose qui vient du cœur de Dieu, il inscrit dans le cœur des frères et sœurs. Selon le dessein éternel, chapitre 3, verset 11, selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur. Et après qu'il nous ait peint cette image très claire, après qu'il ait écrit cette révélation, il prie de nouveau pour les Éphésiens. Pour cette raison, je plie mes genoux devant le Père, afin qu'il vous donne, je fléchis les genoux devant le Père. Et cette attitude m'a impressionné. Et ce matin, nous en avons entendu parler, que nous sommes dans un combat. Et Paul l'avait clairement devant les yeux et connaissait les difficultés que nous connaissons en tant que chrétiens. Et il a fléchi les genoux pour les frères et sœurs. Il a détourné son regard de lui-même. Il a détourné son regard de ses propres combats. Pour lui et pour nous aussi, il s'agit de la gloire de Christ dans l'Église. Et pour cela, il a besoin d'hommes et de femmes qui prient. Et qui prient comme ici Paul. Paul est un modèle. Il prie pour les frères et sœurs. Que Christ habite dans vos cœurs par la foi, que vous soyez puissamment fortifiés par son esprit. J'aimerais vous poser la question, dans le lieu où vous habitez, avez-vous déjà prié ainsi pour les frères et sœurs? Ou n'avez-vous dit cette prière que pour vous, c'est déjà bien, mais ça va plus loin? Il a besoin de chacun de nous afin que nous prions pour les autres frères et sœurs dans le lieu où nous sommes. Il n'y a pas seulement Paul qui est nécessaire pour les Éphésiens. On n'a pas seulement besoin des anciens qui prient pour les frères et sœurs du lieu. Le Seigneur aimerait que nous soyons tous réveillés pour cela. Et en fait, je dois dire, quand le Seigneur réveille notre esprit avec cette vision du seul corps, comme nous l'avons entendu hier soir, alors la prière pour les frères et sœurs est une suite tout à fait logique. Le Seigneur me pousse intérieurement pour les saints, pour prier pour les saints là où j'habite. afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié. Ceci détourne mon regard de moi, de mes difficultés. Nous nous rendons un avec son désir, afin qu'il obtienne la gloire dans l'Église. Seigneur Jésus, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, siècles et siècles. Amen. Que nous découvrions cette prière pour les frères et sœurs du lieu où nous habitons. Et je vous dis que personne parmi nous n'est trop jeune pour prier ainsi. Et personne n'est trop âgé. C'est pour ça que Paul nous le présente. Et il continue au chapitre 4 et dit, « Je vous exhorte donc. » Amen. Lisons peut-être ensemble ces versets. Chapitre 4, versets 1 à 6, ceux de Stuttgart, tous ensemble. Amen. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous. Amen. Après une vision tellement merveilleuse, Paul vient. Et il en arrive à la réalité, à notre marche. Donc je vous exhorte, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation. Qui nous a appelés? N'est-ce pas merveilleux? Ce Dieu tellement grand, ce grand Créateur qui a tout préparé pour obtenir son Église, nous a appelés. Il nous a, comme Pierre, dans son premier chapitre, nous le décrit, dans sa deuxième épître, il nous a tout donné, tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Tout, pour qui compte, tout ce qui contribue à la vie. Prenons la parole telle qu'elle est écrite ici, tout pour ce qui contribue à la vie, pour notre vie de tous les jours. Notre vie journalière dépend du Seigneur. Il a tout offert. J'aimerais le connaître, celui qui m'a tout offert. J'aimerais revenir à lui. Et comme on l'a entendu hier soir, reviens au Seigneur qui a tout créé, qui a tout offert. Et soyons également conscients de qui il est. Qui est-il celui qui donne tout ce qui contribue à la vie? Pas que je pense, ah, c'est moi qui ai fait ceci. Dans Deutéronome, il existe un chapitre, je l'ai lu il y a quelques semaines, au chapitre 8, à partir du verset 11, j'aimerais simplement vous le lire. Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu. N'oublions pas. Et en fait, c'est en fait ce qui est écrit dans Éphésiens 4, 2, en toute humilité. Cela commence par ne pas oublier le Seigneur, ne pas se considérer comme tellement important. Deutéronome 8, 11. Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois et que je te prescris aujourd'hui. Lorsque tu mangeras et tu rassasiras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or et s'accroître tout ce qui est à toi, prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert où il y a des serpents brûlants et des scorpions, dans des lieux arides et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur, qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue à tes pères, afin de t'humilier et de t'éprouver pour te faire ensuite du bien. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force. C'est merveilleux avoir une telle attitude. Une telle attitude, nous l'avons toujours le droit de nous l'approprier. Seigneur, c'est toi qui me donne la force pour ma vie de tous les jours. C'est toi qui me donne la force. Qui t'a réveillé ce matin? Qui a permis que tu te réveilles? C'est merveilleux, c'est le Seigneur. C'est lui qui nous donne la force. Le Seigneur, à cette époque, dans Deutéronome, était déjà plein de soucis parce qu'il connaît bien l'homme. Afin que tu ne dises pas un jour, moi je l'ai fait moi-même. Satan, l'ange de lumière, nous le connaissons. Et j'aimerais courtement lire quelques versets de Ézéchiel 28 pour exposer comment est cet ange, comment il était, comment il est. Ézéchiel 28, là, il utilise le prince de Tyr comme image. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Ton cœur s'est élevé et tu as dit, je suis Dieu. Je suis assis sur le siège de Dieu au sein des mers. Toi, tu es homme et non Dieu. Et tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Voici, tu es plus sage que Daniel. Rien de secret n'est caché pour toi. Par ta sagesse et par ton intelligence, tu t'es acquis des richesses. Et un peu plus loin au verset 6, c'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel, parce que tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Et les Allemands ont, comme tu prends ton cœur à la place du cœur de Dieu, ça c'est Satan. Ça c'est cet ange de lumière qui voulait aller plus haut, qui a pensé, ça c'est moi qui l'ai fait. Et frères et sœurs, cette nature est entrée dans les êtres humains et vraiment est dans notre chair. Chaque homme est imprégné de cette nature orgueilleuse. Et aussi par notre foi, nous n'en sommes pas simplement délivrés. Nous avons toujours encore ceci dans notre chair. Et c'est pourquoi il est tellement bon que nous nous peignions le Seigneur les uns aux autres, afin que nous nous humilions sous sa main puissante. Nous disons Amen, Seigneur. Je reconnais, tu es plus grand. Seigneur Jésus. Cette épître aux Romains dit, la mort a atteint tous les êtres humains. Ce fait d'être, cette attitude d'être orgueilleuse est aujourd'hui tellement visible. Regarde, va sur Internet. Oui. quelque chose est posté sur Internet, et ensuite on regarde combien il y a de pouces levés, combien il y a de bien. On parle d'êtres humains qui ont tant et tant de followers, donc tant et tant de suiveurs, entre guillemets. Ça, c'est vraiment glorifier une personne. Et le Seigneur,
ouais.
Ces personnes ne peuvent pas vivre une seconde de plus que ce que le Seigneur ne leur donnera comme durée. Nous l'avons vécu récemment, le Seigneur bouge les plaques terrestres et 50 000 personnes meurent. Même un qui a 100 000 j'aime sur Internet, il disparaît. Oui, parfois le Seigneur doit utiliser des choses extérieures pour humilier. Si cette parole dans Deutéronome ne touche pas le cœur, le Seigneur a parfois besoin de choses extérieures. Même nous, les croyants, il nous le rappelle ainsi. Toi, tu n'as rien en main comme tu penses l'avoir en main. Sois conscient et sois humble. Par ces images, nous avons vu, par ces nouvelles de la Turquie, nous avons vu ce qui se passe. Je n'ai pu dire qu'une chose, Seigneur, que puis-je dire? Là, toute fierté s'arrête. Et c'est saint, S-A-I-N. Pour ceux que le Seigneur a gardé en vie. Et ils peuvent dire Amen. Merci Seigneur. Ce que tu me dépeins, c'est grand. Merci Seigneur parce que je vis encore aujourd'hui et parce que tu m'as destiné pour ton Église, à ton Église. Le psalmiste, dans le psaume 119, a fait une déclaration merveilleuse par rapport au fait que le Seigneur humilie. Oui, si je m'humilie moi-même, si je ne m'humilie pas moi-même, alors le Seigneur nous humilie. Psaume 119, verset 71, il m'est bon d'être humilié afin que j'apprenne tes statuts. Au verset 75, je sais, ô Éternel, que tes jugements sont justes. C'est par fidélité que tu m'as humilié. Amen. Avant, au verset 67, avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Maintenant, j'observe ta parole. Louez le Seigneur. Une attitude merveilleuse à le psalmiste là. Avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Nous pouvons remercier le Seigneur pour toutes les choses par lesquelles le Seigneur nous a humiliés, afin qu'en toute humilité, nous puissions être utiles dans sa maison. Faites attention à cela. Ces dernières semaines, pendant le temps où je me suis occupée de manière plus intense avec ces versets, j'ai fait attention aussi à la manière dont le Seigneur est, comment il réagit. Et de manière surprenante, le Seigneur utilise parfois aussi des situations pour nous humilier. Pas afin qu'il nous opprime ou nous abaisse. Non, c'est pas le but. Mais pour que nous devenions utiles pour son plan, pour sa gloire. Parce que mon orgueil est un obstacle. Et j'aimerais simplement donner quelques exemples où, dans lesquels j'ai pu expérimenter cela de manière précieuse. Il y a 10 jours, par exemple, ma femme m'a critiqué, ou plutôt m'a corrigé, dans une chose où j'avais raison. Alors, comment je réagis? Très vite, j'ai trouvé un contre-argument. Oui, mais si je fais attention, comment le Seigneur l'utilise-t-il pour m'humilier, pour me dire, tu n'es quand même pas aussi bon comme tu le pensais, ou que tu le pensais. Une autre situation, un frère a dit quelque chose à Baal, et moi, j'ai réagi de manière incrédule devant les autres, et de suite intérieure, il y a une réaction. Timo, que viens-tu de dire? Comment peux-tu arriver à ceci, à réagir comme cela? Je n'ai plus rien dit, et je suis sûr que ce frère ne sait rien de ce bonheur qu'il m'ait mis dans cette situation où j'ai été humilié. Je n'ai pu dire qu'une seule chose. Seigneur, je me repens parce que j'ai réagi tellement vite. C'était vraiment... J'avais une attitude orgueilleuse. Parfois, il utilise aussi des choses. Oh, tu penses, bon, bah, ça s'est mal passé. Et ok, tu règles ça vite fait. Mais il est bon de remarquer. Mais le Seigneur est aussi derrière cette chose-là. Dans ma préparation de ce soir, d'un coup, tout était parti. Ça a été détruit au niveau de l'ordinateur, je ne l'ai plus retrouvé. Seigneur, peut-être que tu voudrais encore une fois me parler. Mais c'était la deuxième réaction. Oui, parce qu'à la première réaction, je me suis mise en colère. Et comment je peux? Jusqu'au moment où le Seigneur m'a dit, mais reviens vers moi. Pourquoi je devrais te cacher des choses, te cacher ce que je t'ai déjà dit? Louez le Seigneur. Non, ce ne sont que des petits exemples. Mais ils m'ont montré. Le Seigneur veut, désire que nous reconnaissions sa toute puissance, que nous reconnaissions son œuvre en nous. Et nous pouvons lire aussi que nous marchions d'une manière digne du Seigneur, en toute humilité. Et cela commence dans mon cœur. En toute humilité. Amen, Seigneur. Je m'humilie devant toi. Amen, Seigneur Jésus. Afin que nous puissions marcher d'une manière digne de la vocation. Pas pour que je puisse m'enorgueillir, que je puisse raconter ceci et par là même me mettre au centre de tout, peut-être. Ça arrive tellement vite, l'ennemi est tellement rusé. Il sait exactement où il doit nous saisir, nous surprendre. Ce n'est vraiment pas une attitude, c'est en toute humilité, c'est « ok, on peut l'interpréter dans sa mentalement. Ah, donc je suis humble maintenant. Ok, je fais attention à ce qu'on ne me remarque pas, de manière que je me retienne. On peut s'entraîner. Il y a des cours même qui vous préparent à cela. Mais de ne rien dire dans une discussion, ça ne veut pas dire que je suis humble. Peut-être que je suis tellement convaincue de mon opinion, mais je sais vraiment que si j'apporte cette opinion, ben, ça va apporter de l'opposition. Et donc, par plein orgueil, par pleine conviction de ce que je sais, je vais me retenir, je ne vais rien dire. Et si je transpose ceci dans le domaine spirituel, il y a une communion, par exemple, je reste silencieux. Parce que je ne veux pas que le Seigneur me touche. C'est aussi une attitude d'orgueil. Le Seigneur dit en toute humilité. Seigneur Jésus, en toute humilité et douceur, vous portant les uns les autres avec amour. Cette humilité que le Seigneur œuvre en nous n'est pas afin que, simplement pour nous, que nous le gardions pour nous, que même nous, entre guillemets, le présentions. Non, il s'agit ici de son Église. Et c'est merveilleux. N'oublions pas ceci. Il s'agit du corps de Christ, de cette vision, mais afin que cette vision devienne la réalité, elle a besoin de mon humilité, Seigneur Jésus. Je reviendrai là-dessus sur l'humilité. Et maintenant, vous portant les uns les autres dans l'amour. Quel est cet amour-là? Dans Jean 13, il est dit que le Seigneur a aimé les siens jusqu'à l'extrême. Et dans Jean 15, dans le verset 15, il dit, personne n'a un amour plus grand que celui que de laisser sa vie pour ses amis. Donc maintenant, cela devient pratique. Je peux très bien me retirer dans mon domaine privé, individuel, et là où j'ai mon petit jardin secret, où personne ne me dérangera. Mais Paul continue ici. Il dit, en toute humilité, vous portant les uns les autres avec amour. Cela suit directement après. Et l'humilité continuelle va plus loin. Oui, l'humilité face au Seigneur par rapport à ce qu'il a fait en moi et ce qu'il voudrait faire encore à moi. Mais d'un autre côté aussi, l'humilité par rapport à l'œuvre du Seigneur qu'il opère dans les saints. Il dit, vous portant les uns les autres avec amour. Quand je découvre cet amour du Seigneur, alors là, je suis prêt à laisser ma vie pour les frères et sœurs. Et ne pas se fuir les uns les autres. Je rappelle ce matin, ce qu'on a entendu ce matin, je n'ai pas besoin de toi. Dit Paul dans 1 Corinthiens 12, en parlant du pied. De ce membre, l'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Là, je n'ai pas besoin de l'amour, si je garde des distances. Je me retire peut-être, mais dans mon orgueil, Seigneur Jésus, nous avons besoin les uns des autres. Dans ce corps, comme nous l'avons déjà entendu ce soir, nous avons besoin les uns des autres. Et nous tous, nous devons être portés dans l'amour, dans cet amour qui se donne pour les saints.
Oh, hey, Jesus Christus.
Dans Philippiens 2, versets 2 et 3, il est dit, donc rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour et une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine de gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. C'est merveilleux. Ayez un même amour. Soyez unis dans l'âme et pensez la même chose. Cela réchauffe le cœur du Seigneur quand il voit une telle attitude dans son corps, de penser la même chose, d'être unis dans l'âme. C'est quelque chose de merveilleux. afin que nous recevions cette bénédiction. Il y a une telle bénédiction quand nous nous portons les uns les autres. Nous portant les uns les autres dans l'amour. Et pas en regardant d'en haut, ah oui, bon, ce frère, je le supporte. Ça, c'est l'étape avant de dire, je n'ai pas besoin de toi. Non, mais vraiment être unis dans les âmes et voir Christ dans ce frère. Être vraiment orienté par ce fait que ce frère ou cette sœur vit le Seigneur. Dans Romains 14, verset 4, qui es-tu, toi, qui juges un serviteur d'autrui? S'il se tient debout, s'il tombe, cela regarde son maître. Et maintenant vient une merveilleuse déclaration. Mais il se tiendra debout. Frères et sœurs, pensons aux frères et sœurs qui sont dans le lieu où nous vivons. Plein de foi, il se tiendra debout. Cela nécessite l'humilité du Seigneur. Cela nécessite ma vie dans le Seigneur qui est l'humble. Je ne suis pas humble de cœur, mais je vis par Christ. Dans cette attitude, il restera debout, il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Et on voit de nouveau cette humilité. Moi, je ne peux pas le faire, mais le Seigneur peut le maintenir debout. Le Seigneur, louons le Seigneur pour cela. Et là où je vois des manques, où je vois des manques chez des frères et sœurs, peut-être que le Seigneur nous a affermi un point, sur un point donné, et il dit, Paul aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens 10, verset 12, il y a très vite je n'ai pas trouvé le verset. Je peux très vite, moi je suis encore là après tant d'années, que celui qui est debout prenne garde de ne pas tomber. Et moi j'ai réussi à rester. On vient de le lire. Ainsi donc, que celui qui croit être debout ne prenne garde de tomber. Ou que toi tu ne dises pas, voilà, je suis une main. Voici l'ennemi risque de nous dire, ah, toi, tu as déjà vu ceci, et alors tu crois déjà avoir reconnu certaines choses. Et d'un coup, cela nous rend orgueilleux. L'orgueil précède la chute, dit la parole. Malheureusement, nous l'avons vécu également. Le Seigneur ne peut rien faire avec l'orgueil. Alors, de temps en temps, on est éloigné de l'Église parce qu'il a besoin d'humilité. Nous portons en toute humilité les uns les autres. Frères et sœurs, et le fait d'être rendu humble par le Seigneur. Donc, premièrement, quand nous-mêmes nous humilions devant le Seigneur, mais aussi quand le Seigneur nous humilie afin que nous ne continuions pas d'errer, ce fait est là pour que le Seigneur puisse nous utiliser dans son merveilleux dessein. Dans ma Bible, ma lecture journalière de la Bible, je suis arrivé à un point où il est parlé de Moïse, où il est dit qu'il était l'homme le plus humble de terre, sur la terre. C'est peut-être pas simplement, hop, en un clin d'œil. Je vous lis un verset dans Actes des Apôtres, au chapitre 7. Au verset 22, Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens et il était puissant en parole et en œuvre. Oui, c'est vraiment quelque chose. Il était à la cour du roi. Il a été élevé là-bas. Il avait quelque chose à dire. Il avait été seulement hautement considéré. Ah, voilà Moïse, celui qui a été pêché dans le Nil, et maintenant le voici. Il est à la cour du roi. Il était puissant en parole et en œuvre. Alors, vous savez ce qui s'est produit. Dans son zèle excessif, il a tué quelqu'un et le Seigneur l'a mis de côté pendant 40 ans pour l'humilier, mais non pas pour simplement le mettre de côté, pour le renvoyer de côté. Il avait besoin de ce jeune homme. Il avait besoin de lui pour faire sortir le peuple. Il avait besoin de lui pour guider le peuple de Dieu et aussi pour rappeler au peuple ce que le Seigneur avait fait. Mais d'abord, il a dû l'humilier. Et ceci dans Nombre 12, où il est dit qu'il était le nom, le. Je lis le contexte. Donc, Nombre 12.1, Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Donc, ils ont trouvé un point faible là. Ses propres frères et sœurs. Et ils disent, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Et l'Éternel l'entendit. C'est très intéressant. Et maintenant vient le verset. Or, Moïse était un homme, alors les Allemands ont très humble, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. À cet endroit-là, il n'est pas écrit comment Moïse a réagi, de quelle manière il a réagi. Rien n'est écrit là. Le verset suivant est le suivant. Soudain, l'Éternel dit à Moïse, à Aaron et à Marie, allez-vous trois à la tente d'assignation. Et donc, il a prouvé que Moïse avait un rôle dans le plan de Dieu et qu'il y avait vraiment un ordre là. J'ai trouvé ça vraiment impressionnant. Il n'est rien écrit du tout de Moïse, rien. Moïse a laissé réagir le Seigneur. C'est bon. Si je suis humble, je laisse réagir le Seigneur. C'est merveilleux. Également, dans l'ordre de Dieu, l'ordre établi par Dieu, et accepter l'ordre établi par Dieu. Cet ordre commence avec nous, les êtres humains, par le fait que nous reconnaissions aussi que Dieu a un ordre, homme et femme, et a vraiment, ouais, un ordre. Le Seigneur le dit de manière très claire. Le mari est la tête de la femme. Comment est la société actuellement? C'est carrément le contraire. Comment réagissons-nous en tant que croyants? Est-ce que je m'humilie sous son gouvernement ou son ordre? Nous pouvons regarder l'ordre ou le gouvernement suivant, l'Église. Là aussi, il y a un ordre du Seigneur, lui en tant que tête, mais il y a aussi de manière très pratique dans le lieu où nous vivons, des surveillants du troupeau qui doivent être des modèles du troupeau, qui doivent guider le troupeau. Très vite en moi, je réagis, ou même je me rebelle peut-être contre cet ordre-là, parce que je pense savoir mieux ce qui doit être, comme Myriam et Aaron ici. Dans leur intelligence, ils ont dit, mais pourquoi seulement Moïse? Pourquoi pas nous? Qu'en est-il de ce qui se passe dans notre localité, dans la vie d'Église? Frères et sœurs, Moïse a été humilié pour que le Seigneur puisse l'utiliser dans son plan, afin que le peuple pût traverser le désert jusqu'à l'entrée dans le pays. Et là, le Seigneur a besoin aussi de nous humilier. Et il ne s'agit pas de savoir plus vite ce qui doit se faire. Et il faut pouvoir porter aussi les saints. Moïse aurait simplement pu demander que le feu tombe du ciel contre Aaron et Marie. Mais il a laissé réagir le Seigneur. Vous le voyez dans un même domaine, dans un domaine semblable. Quelques chapitres plus tard, il y a la troupe de Corée qui arrive. Mais là, il y a vraiment le jugement qui s'est exécuté. Ils ont été engloutis. Moïse était humble. Il a laissé faire le Seigneur. C'est une attitude de base merveilleuse dans la vie d'Église. Laisse agir le Seigneur. Toi, prie pour les saints. Que le Seigneur puisse fasse demeure dans le cœur des saints et laisse-le réagir. Seigneur Jésus. Oui, nous voyons dans l'Ancien et le Nouveau Testament toujours des personnes qui ont été humiliées afin qu'elles puissent être utilisées. Jonas aussi a été humilié dans le ventre du poisson afin qu'il puisse prêcher un évangile clair. Même un Jean dans Apocalypse a été envoyé dans l'île de Patmos. Elle a été bannie dans l'île de Patmos. Mais comment le Seigneur n'a-t-il pas pu l'utiliser pour la révélation? Louez le Seigneur. Revenons à Éphésiens 4. En toute humilité, vous portant les uns les autres avec amour, afin que Dieu puisse obtenir sa gloire dans l'Église. Très vite, je m'énerve peut-être au sujet de quelqu'un, parce qu'il arrive trop tard, ou bien parce que l'un propose toujours le même chant, ou parce qu'il dit tellement fortement « Amen ». Ouais. En toute humilité, nous portant les uns les autres. Amen. Il y a une sœur qui dit « Amen ». Amen, exactement. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit. Dans une autre traduction, il est dit, vous efforçant de conserver l'unité que l'esprit a déjà produite. Donc seulement maintenant, quand je suis humble, quand le Seigneur m'a humilié, dans beaucoup de petits domaines, je suis prêt aussi de garder l'unité de l'esprit, cette unité que l'esprit a œuvrée. Qu'est-ce que cette unité? Dans Jean 17, qu'a prié le Seigneur? L'unité entre le Père et le Fils. C'est quelque chose de tellement organique. Sans friction, sans perte liée à la friction, mais cette unité comme qui existe entre le Père et le Fils. Et dans Jean 17, il a dit au verset 21, afin que tout soit un comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Amen. Comme nous sommes un. Pas comment nous nous sommes entraînés à être unis ou à rester unis. Ça, je peux le faire aussi, alors que nous côtoyons, mais tout en faisant attention de ne rien dire de faux. C'est un peu se côtoyer en louvoyant. Ça, c'est mon vieux, moi. C'est ma propre force. Parfois, je me dis, il faut que je serre les dents afin que je puisse être un avec ce frère ou avec cette sœur. Mes frères et sœurs, alors là, il y a un problème de muscles au niveau de la mâchoire et c'est nos propres forces. Entraîne tes muscles pendant les heures de sport. Non, cette unité n'est pas produite par les muscles qui se crispent ou par le fait de serrer les dents afin que ça marche. Non, non, non. Être un comme le Père et le Fils sont un. Oh, Jésus. Et cette unité, de la maintenir fermement, donc vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit, ce que le Seigneur a créé à la croix, c'est-à-dire de nous amener dans cette unité, de créer ce corps magnifique que nous avons vu dépeint ce soir, ce seul corps, cet unique corps, c'est merveilleux. Cette unité, le Seigneur l'a créée, et ça, j'aimerais le conserver avec les frères et sœurs là où j'habite. Vous efforçant de conserver. Et cela commence par le fait que moi, en premier, je dépose mes pensées qui divisent, mes pensées qui séparent. Ce qui me sépare de vous doit être déposé. Toute méchanceté, toute fausseté, 1 Pierre 2, verset 1, toute hypocrisie et toute mauvaise parole. Tout ce qui est dire du mal des autres. Vous, les jeunes saints, tellement vite que je dise des mauvaises choses. Vous savez ce qui se passe dans vos classes. Ça se produit journellement. On s'outrage les uns les autres. On se présente de manière meilleure que les autres. On méprise un peu les autres, ou alors on le rend ridicule. C'est cool aujourd'hui dans les écoles, ça se pratique. C'est même ce qu'on apprend aux écoliers, aux étudiants. Et c'est pas pour rien que Pierre dit déposer cela. Cela n'a rien à voir, rien à faire, n'a pas à exister dans la vie d'Église. Si vite, je me forge un jugement. Ah, t'as vu ceci? As-tu entendu cela? Ça, c'est déjà de l'orgueil. Moi, je sais mieux. N'oublie pas que chacun tombe ou se tient debout devant le Seigneur. C'est le Seigneur qui le tiendra debout. Vous remarquez que l'ennemi combat contre l'Église. J'aimerais simplement, avec ces quelques versets, vous montrer. Pour l'ennemi, ça a de l'importance. Parce que nous voudrions atteindre l'unité de la foi pour atteindre la stature de l'homme parfait. Nous en entendrons parler demain et après-demain encore. Pour cela, nous devons nous humilier. Pour cela, nous devons maintenir fermement l'unité que le Seigneur a créée de manière pratique, très pratiquement dans le lieu où je vis. Chaque fois que je remarque, ah, là, j'ai dit quelque chose concernant un frère ou une sœur, le Seigneur doit me rappeler de suite. Stop, stop. Humilie-toi sous la main de Dieu. C'est lui qui bâtit l'Église. À lui soit la gloire, frères et sœurs. Oh, Jésus. Et le fait d'être zélé, conserver l'unité, vous efforcer de conserver l'unité de l'esprit. Cela a besoin de mon zèle. J'aimerais parler courtement d'un frère, vous lire. Il a été très zélé. 2 Timothée 1, verset 16, il est à peine évoqué, c'est Onésiphore, mais ici, c'est un frère merveilleux. Que le Seigneur répande sa miséricorde sur la maison d'Onésiphore, car il m'a souvent consolé, et en allemand, c'est même rafraîchi. Et il n'a pas eu honte de mes chaînes. Au contraire, lorsqu'il est venu à Rome, il m'a cherché avec beaucoup d'empressement, et il m'a trouvé. Louez le Seigneur. Oui, que nous cherchions les frères et sœurs avec empressement et que nous les trouvions. Viens dans les réunions. Cherche les frères et sœurs dans la réunion. Ne te retire pas. Comprenez-moi bien. Ne te retire pas derrière ton ordinateur. Et dit, ouais, c'est OK. L'essentiel, je suis présent avec sur Internet. Il ne s'agit pas de frères et sœurs qui restent à la maison à cause de maladies, mais il s'agit de ni de ceux qui ne peuvent pas faire de longs trajets. Non, non. Mais il s'agit de cette attitude de base que je dise, oh ben, que je sois présent ou pas, physiquement, ça n'a pas de grande importance. L'essentiel, c'est que j'entende quelque chose. Non. Non, pas tout à fait. Il s'agit d'être zélé, empressé pour garder, conserver l'unité que l'Esprit a produite. Ça, c'est la base pour l'édification. Cela commence avec l'humilité. Comment je l'ai montré au départ, comment le Seigneur nous humilie, comment nous nous humilions aussi pour les frères et sœurs. Pour reconnaître ce que le Seigneur fait dans les frères et sœurs. Et ensuite, nous conservons cette unité que le Seigneur a créée. Là, il y a besoin d'un zèle, d'un empressement. Encore une fois, un mot pour les jeunes frères et sœurs. S'il vous plaît, ne laissez pas ce champ du zèle à la génération plus âgée. Et surtout pas à la génération des grands-parents. Toi, sois zélé pour conserver l'unité. Quelle victoire du Seigneur sur l'ennemi quand il peut dire, regarde, là, il y a des frères et sœurs dans ce lieu qui conservent l'unité avec zèle. Il y a un jeune frère dans son âge. Il n'y a personne autour de lui. Mais il a cette attitude de conserver l'unité avec zèle. Quelle victoire sur l'ennemi. Amen. Et j'aimerais terminer avec ce verset connu de Actes 2, versets 42 et 43. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun. Et quand nous sommes humbles et donnons la gloire au Seigneur, là, la crainte s'emparera de chacun. Et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Quel temps glorieux est encore devant nous quand en toute humilité, nous nous portons les uns les autres dans l'amour pour conserver avec zèle l'unité de l'esprit. Je me réjouis vraiment pour ce temps et je me réjouis encore plus de ce que le Seigneur révèle ces jours-ci. Restons vraiment devant le Seigneur et demandons au Seigneur, où suis-je vraiment un obstacle? Ou est-ce que je suis trop sûr de moi-même? Seigneur, j'aimerais apprendre ton humilité. J'aimerais te connaître en tant que l'humble, être humble de cœur pour l'édification de l'Église, pour la gloire dans l'Église. Louez le Seigneur. Amen.